les caisses. Trois ans de récession économique, le FMI suspendait les aides à l'Argentine. Et elle n'a pas utilisé l'instrument de l'audit. C'était un défaut, je dirais, une suspension de paiement, un défaut en partie technique. Il n'y avait pas d'argent à la caisse, on arrête. Maintenant, dans le cas de l'Équateur, on est dans une situation différente. L'Équateur avait de l'argent à la caisse. On était en 2007, le prix du pétrole permettait des rentrées significatives dans les caisses de l'État. Mais le gouvernement coréen s'est engagé auprès de la population dans la campagne électorale à mettre fin au paiement de la partie illégitime de la dette, à considérer que, peu importe, il y a peut-être de l'argent dans les caisses, mais il est tout à fait anormal de rembourser une dette qui est illégitime. Donc on s'est mis au travail, on a démontré l'illégitimité de 85% de la dette que nous avions analysée. Nous avons eu trois réunions au cours de nos 14 mois de travail avec le président Correa et son gouvernement. On a remis nos conclusions qui ont été rendues publiques. Et après un mois et demi après avoir rendu nos travaux, nous les avions rendus fin septembre 2008, en novembre 2008, le gouvernement donc suspend le paiement de la dette commerciale pour un montant de 3 milliards. En 10 ans, nous fondons notre décision souveraine unilatérale de suspension de paiement sur la base des travaux réalisés par la commission d'audit qui nous a démontré, cette commission d'audit, que la dette dont nous suspendons le paiement est illégitime. Donc, c'est un acte unilatéral, souverain, qui provoque les protestations des créanciers. La presse financière internationale dit, mais c'est absolument incroyable, ils ont des sous, et ils se permettent d'invoquer des arguments éthiques, moraux, juridiques, mais à partir de doctrines qui sont purement, parfaitement contestables, et donc ils nous imposent cette suspension de paiement. Bon, ils protestent, on annonce que ça va être dramatique pour l'Équateur, mais intelligemment, comme mon collègue Hugo Arias l'explique dans le film, ce que fait le gouvernement, il applique les règles du jeu, je dirais, que s'appliquent les banquiers. Il trouve une banque qui est bien connue, qui s'appelle la Banque Lazare, et il demande à la Banque Lazare d'acheter sur le marché secondaire des dettes les titres au prix le plus bas, donc à 20% de leur valeur. Sans annoncer, donc l'État n'annonce pas qu'il rachète, comme le dit mon collègue, il fait ça secrètement. Et donc il demande à la banque de racheter pour son compte, à lui le gouvernement, mais en disant, vous, si on vous demande pour qui vous rachetez, ben vous rachetez pour vous-même. Et là, une banque peut racheter sur le marché secondaire des titres. Quand le gouvernement a eu comme information qu'il y avait déjà une masse suffisamment importante de titres rachetés par la banque, qu'il possédait, donc, il a fait une offre publique, c'était en avril 2009, il avait laissé mariner ceux qui hésitaient encore à revendre les titres, et il a dit, bon, j'ai fait une offre généreuse, je rachète les titres qui restent à 35% de leur valeur. Et là, ceux qui hésitaient encore ont vendu leurs titres. Et finalement, en juin 2009, l'Équateur a pu dire « J'ai racheté 91% des titres de ma dette. » Et là, c'est une autre différence avec l'Argentine. L'Équateur a racheté les titres et les a déchirés. Il n'a pas échangé d'anciens titres contre des nouveaux. C'est-à-dire qu'il n'a pas contracté une nouvelle dette, ce que l'Argentine a fait. Il a annulé, par ce biais-là, une partie importante de sa dette deux tiers de la dette due aux banquiers. Alors, tant dans le cas de l'Argentine et de l'Équateur, ce qui est tout à fait intéressant à relever comme aspect supplémentaire, ces deux pays n'ont plus accès aux marchés financiers. Ces deux pays, l'Argentine depuis 2001 et l'Équateur depuis maintenant 2007, ne vont plus sur les marchés financiers, vendent leurs titres et ils donc, financent leur développement économique sans recourir au marché financier. Meilleur prélèvement de l'impôt sur les entreprises, sur le bénéfice des entreprises. Là, le gouvernement argentin a dû entrer en conflit, notamment avec le secteur de l'agro-business, pour augmenter les impôts sur notamment le soja. L'Équateur a imposé aux entreprises pétrolières étrangères une augmentation forte des impôts. Et puis, il y a toute une série de contrats, là, je ne vais pas entrer en détail. Le deuxième point que je vais faire, qu'on ne se méprenne pas sur le sens de ce que je dis, donc là, je souligne, je ne prends ni l'Argentine ni l'Équateur comme modèle. L'Argentine est un pays capitaliste avec un gouvernement nationaliste qui mène une politique d'une gauche modérée, mais en conflit avec le Fonds monétaire international. Par exemple, le Fonds monétaire international menace d'exclusion l'Argentine d'ici la fin de l'année. Mais c'est un pays qui a une structure capitaliste qui n'a pas été modifiée et qui base son développement essentiellement sur l'extractivisme et les exportations. C'est-à-dire prélever sur ses ressources naturelles, notamment par des mines à ciel ouvert, un maximum de ressources pour les vendre sous une forme brute sur le marché mondial. Et c'est un pays qui développe à fond la monoculture du soja transgénique avec des effets catastrophiques. Donc je ne le prends absolument pas comme modèle. Ce que je retiens de l'Argentine, c'est qu'un pays peut parfaitement suspendre unilatéralement le paiement de sa dette, donc sans demander à quiconque le droit de le faire, et un tel pays qui désobéit donc à ses créanciers, qui s'isole des marchés financiers, peut parfaitement s'en tirer, malgré tous les discours qui sont avancés pour dire que c'est absolument impossible pour un pays de faire ça. Dans le cas de l'Équateur, je ne le prends pas non plus pour un modèle, l'Équateur aussi base son développement en maintenant un schéma extractiviste à partir de son pétrole. Il essaye de le limiter. Vous savez que l'Équateur a un projet tout à fait intéressant des autorités équatoriennes qui s'appelle le projet Yasuni et Tété. C'est-à-dire l'Équateur dit à la communauté internationale, nous avons dans la région amazonique, dans la région amazonienne, du pétrole sous terre. Nous souhaitons ne pas perforer et ne pas exploiter ce pétrole. Mais évidemment, ça va être une perte pour nous. Nous souhaitons convaincre la communauté internationale de nous indemniser pour le fait que nous n'allons pas relâcher dans l'atmosphère ressources fossiles qui vont provoquer, s'ils sont brûlés, des gaz à effet de serre, et nous voulons protéger de la biodiversité. Ceci dit, ce projet est intéressant, mais la communauté internationale ne suit pas. Il n'y a pas d'argent qui rentre dans le fonds, Yasuni, ITT, et il y a des pressions énormes sur l'Équateur pour abandonner ce projet. Et l'Équateur fait des accords avec une série de transnationales qui exploitent ces ressources naturelles dans d'autres parties du pays. Donc je ne le prends pas comme modèle de ce côté-là, qu'on ne se méprenne pas. Mais ce que je tire là comme expérience, c'est tout comme l'Argentine, l'Équateur, décide tout seul sans demander à personne de suspendre le paiement de sa dette, on lui dit que ça va être un drame, le chaos, et c'est pas ça qui s'est passé. Il n'y a pas eu finalement de capacité de représailles contre l'Équateur, et là, ce qui me paraît donc très intéressant, c'est que l'Équateur passe par un audit, le rend public, et fonde son non-paiement pas sur une impossibilité technique, mais sur une position politique, morale, éthique, juridique, en disant « je n'ai pas à continuer à payer une dette illégitime ». Ça, c'est pour Argentine et Équateur. Alors, je passe à l'Islande, et je vais le faire le plus vite possible. L'Islande, on se rapproche de là, tout à fait de l'Europe. L'Islande est en Europe. Vous avez entendu que ce week-end, il y a eu des élections. C'est un pays qui a vu s'effondrer ses banques, toutes privatisées dans les années qui avaient été précédées. Les banques se sont effondrées en 2008, en même temps que l'effondrement de Lehman Brothers aux États-Unis et que des banques belges et irlandaises. Donc c'était septembre-octobre 2008. Les banques islandaises s'effondrent. Elles représentent en pourcentage du produit intérieur brut 10 fois le produit intérieur brut. Donc c'est un peu Chypre, si vous voulez. C'est un peu comparable. Et l'Islande, confrontée à l'effondrement de ses banques, réagit en les mettant en liquidation, en bloquant les mouvements de capitaux. Le gouvernement islandais décrète que les capitaux ne peuvent plus sortir du pays. Dit évidemment, si vous voulez faire sortir vos capitaux, je dis, je parle bien de capitaux, hein, je ne parle pas de l'argent de poche ou l'argent de voyage ou quoi, je parle de l'argent aux mains des entreprises qui ont investi et qui ont des activités en Islande. Les sorties de capitaux sont bloquées, et si on veut faire sortir des capitaux, il faut demander l'autorisation et justifier à quoi ça va servir. Ce qui se passe alors, c'est que le Royaume-Uni et les Pays-Bas, confrontés à la faillite de la filiale ICEVE d'une des trois banques faillies en Islande, la banque Landsbanki, le Royaume-Uni et les Pays-Bas décident, sans demander l'avis de l'Islande, d'indemniser les résidents qui, au Royaume-Uni, ont mis de l'argent dans ICEVE. Et les résidents qui, aux Pays-Bas, ont mis de l'argent dans ICEVE. Et ça pour un montant de 3,5 milliards d'euros. Ensuite, le Royaume-Uni et les Pays-Bas se retournent contre l'Islande et disent « Nous avons indemnisé nos résidents, payez-nous ces 3,5 milliards. » Et là commence une négociation. La population qui est rentrée en ébullition contre les résultats de la politique du gouvernement, la politique néolibérale privatisatrice qui avait amené les fondements bancaires, cette population rentre en ébullition, apprend que son gouvernement est en train de négocier avec la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, n'accepte pas cette idée-là. La pression monte à partir de la rue et le gouvernement est forcé par une initiative populaire de référendum de convoquer un référendum sur « va-t-on indemniser ou pas le Royaume-Uni ?» Un référendum se tient en 2010 et la population massivement refuse la possibilité de remboursement au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. 93% des votants disent « non, il n'est pas question ». Le gouvernement change, arrive au pouvoir le gouvernement qui vient de perdre les élections, c'est-à-dire un gouvernement dit de gauche, parti socialiste et écologiste de gauche, qui rentre dans une nouvelle négociation avec le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne. Et au cours de cette négociation, on arrive à quelques concessions du Royaume-Uni et des Pays-Bas, et le gouvernement s'apprête à indemniser. La population l'apprend, de nouveau autre en ébullition, convocation d'un nouveau référendum qui a lieu en février 2011, et là, de nouveau, 62% de la population, enfin, de nouveau une majorité, mais plus faible, 62% refusent qu'on utilise de l'argent public pour payer, pour rembourser le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Entre-temps, vu que l'Islande ne remboursait pas le Royaume-Uni, met l'Islande sur la liste des organisations terroristes. Et donc, au même titre qu'Al-Qaïda, et gèle tous les avoirs islandais sur le territoire du Royaume-Uni. Donc on est dans une situation de tension fort importante. Le deuxième référendum aboutit donc contre l'avis du gouvernement, celui qui vient d'être battu aux élections. Le deuxième référendum aboutit à une impasse. Le gouvernement ne peut pas promettre au Royaume-Uni et aux Pays-Bas un remboursement. Il n'y a donc pas de remboursement. Et le Royaume-Uni, alors, avec les Pays-Bas, porte plainte contre l'Islande devant la Cour internationale qui peut traiter les litiges. C'est la Cour de l'Association économique de libre-échange, auquel participe cette Cour est reconnue par 4 États, le Liechtenstein, la Suisse, la Norvège et l'Islande. Et donc le Royaume-Uni, avec une cour composée comme ça, se dit, il n'y a aucun problème, on va gagner. Manque de peau pour le Royaume-Uni et les Pays-Bas, parce que c'était ces deux pays-là qui allaient devant cette cour contre l'Islande, eh bien la cour, il y a 3 mois, a donné raison à l'Islande. La cour a émis une sentence de 36 pages qui dit la chose suivante: rien n'oblige un État à indemniser des étrangers pour suite à la faillite de banques privées. Les obligations de ces banques privées ne sont pas transférées automatiquement au pouvoir public en cas de faillite. Ça, c'est une sentence, un jugement extrêmement important. Parce que vous savez comme moi que jusqu'ici, tous les sauvetages bancaires ont impliqué, ou à peu près tous, un transfert des dettes et des obligations des banques privées faillies ou sauvées de justesse vers le trésor public. Alors, ce qui est aussi très intéressant dans le cas de l'Islande, c'est qu'on se rend compte que, entre-temps, la procédure de liquidation de Landsbanki, cette banque faillie, avance, et on se rend compte que, grâce au fait qu'on a bloqué les mouvements de capitaux, on retrouve suffisamment d'argent dans ce qui reste des actifs de Landsbanki pour indemniser, à partir de l'argent privé de Landsbanki, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, ce qui va éteindre complètement la discussion. Donc, qu'est-ce que je retire comme leçon de l'Islande? C'est que là, un petit pays peut décider de ne pas payer ses créanciers, y compris des grandes puissances économiques, peut décréter un blocage de mouvement de capitaux. Là, d'ailleurs, il y a une chose extraordinaire qui s'est passée, on en a fait très peu de publicité, parce que de nouveau, un peu comme dans ce que je vous ai dit avec le Club de Paris, il ne faut surtout pas qu'on en parle, le FMI a épaulé l'Islande dans sa décision de bloquer tous les mouvements de capitaux. C'est totalement contraire à la philosophie du FMI. Mais le FMI voulait rester sur le terrain de l'Islande. Il avait le choix de condamner l'Islande ou bien de dire « je t'accompagne » avec l'idée « on va, comme FMI, essayer de remettre l'Islande sur la bonne voie néolibérale ». Donc le FMI a autorisé l'Islande à bloquer les mouvements de capitaux. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? C'est que le blocage étant effectif, on a toute une série d'entreprises nationales et étrangères qui ont de l'argent en Islande depuis 2008, qui voudraient bien le sortir, mais ils ne peuvent pas le sortir. Qu'est-ce qu'ils ont alors comme possibilité? Ils ont comme possibilité ce que le gouvernement islandais leur propose. L'Islande n'a plus accès au marché financier de manière large, et l'Islande dit, mais moi je veux bien vous emprunter l'argent que j'ai bloqué à l'intérieur du pays, et je vous emprunte, je vous vends des titres de ma dette, et je vous l'emprunte à du 2, du 3, du 4%. Ce qui fait que l'Islande, qui si elle devait aller sur les marchés financiers, alors qu'elle était en cessation de paiement par rapport à la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, ben l'Islande, si elle allait sur les marchés financiers, aurait dû promettre du 10%, du 12%, du 13% pour emprunter. Elle réussit à emprunter à l'intérieur, dans sa monnaie nationale, à des entreprises qui se disent ben, on voudrait bien sortir l'argent, mais tant qu'à faire, il est là. Autant qu'il nous rapporte un peu, c'est peut-être du 2 ou du 3%, ben, en attendant de pouvoir ressortir notre argent, on peut le faire. Alors, quand je dis ça, aussi, généralement, on me dit, non, mais ok, mais l'Islande n'est pas dans l'Union européenne, l'Islande n'est pas dans la zone euro, l'Islande avait sa monnaie, elle a pu la dévaluer, etc. Donc, je vous signale que, heureusement que je viens maintenant à cette date-ci, un mois après ce qui s'est passé à Chypre, parce que je peux vous dire que c'est Chypre qui fait partie de la zone euro, vient de se voir autorisé, même on l'a plutôt poussé dans ce sens-là, à bloquer les mouvements de capitaux. Un pays dans la zone euro est autorisé, là ce qui ne me convient pas du tout, c'est dicté, les conditions sont dictées par les créanciers, mais les créanciers eux-mêmes, dans ce cas-ci, pour empêcher que évidemment, les oligarques russes et les britanniques sortent leur argent de Chypre, on bloque complètement les mouvements de capitaux, de sortie de Chypre. Mais ça crée une jurisprudence de la zone euro. Un pays reste membre de la zone euro et applique un contrôle total sur les sorties de capitaux. Et donc, pourquoi la Grèce, pourquoi le Portugal, pourquoi l'Irlande ou un autre pays de la zone euro ne pourrait-il pas suivre l'exemple islandais? Alors je termine. Ces trois pays sont différents. Il y a un point commun, il y a deux points communs importants entre les situations de ces trois pays. Un, de très importantes mobilisations populaires. Ce qui s'est fait parce que la population était mobilisée. Dans le cas de l'Équateur, ce n'était pas la pression sur le gouvernement de Correa. Dans le cas de l'Équateur, c'est 10 années de lutte de la population équatorienne pour se défaire de politique néolibérale qui amène Correa à être élu avec un appui populaire. Et lui, pour maintenir sa légitimité, s'engage dans le non-paiement de la dette. Mais donc, dans les trois pays, il y a eu de très importantes mobilisations populaires. Et le deuxième point commun entre ces trois pays, c'est que ils ont décidé la suspension de paiement partiel, une partie de leur dette, mais importante, sans demander l'autorisation à personne. Et ils s'en sont très bien tirés. L'Islande, comme économie, que je ne prends de nouveau pas comme modèle, on a continué à appliquer des politiques néolibérales. On nous dit le gouvernement de gauche a perdu les élections, mais ce gouvernement de gauche, en fait, négociait dans le dos de la population avec les créanciers, et c'est la mobilisation de la population qui a amené la victoire que j'ai décrite, qui est une victoire partielle. Et donc, ces socialistes et écologistes de gauche ont déçu. Et comme il n'y a pas d'autre alternative, la population a procédé à un vote de sanction le week-end passé, et effectivement, la sanction va au bénéfice des partis de la droite qui sont venus, ceci dit, avec un discours qu'on décrirait de populiste, c'est-à-dire pour gagner les élections contre le gouvernement de gauche, ils ont fait des promesses que normalement aucune droite ne fait. C'est-à-dire de diminuer radicalement la dette hypothécaire des Islandais. Parce que l'effondrement bancaire en Islande et l'éclatement de la bulle immobilière en Islande font que les ménages islandais ont une dette hypothécaire extrêmement élevée et les partis d'opposition ont promis d'alléger radicalement cette dette hypothécaire et en diminuant, donc c'est-à-dire des propositions qui ne sont pas d'habitude le fait de parti de droite, mais ils voulaient absolument gagner les élections, et donc ils ont fait des promesses, on verra comment ils les tiendront. Alors, je pense que ça doit être une source d'inspiration pour nous, y compris au niveau suivant. Je terminerai par là. Le processus d'audit citoyen que nous réalisons, ce n'est pas un exercice intellectuel. Il y a une partie de travail, de recherche, d'audit, etc. Mais il n'aura de véritable résultat que s'il débouche sur une campagne massive de conscientisation se prolongeant dans une mobilisation. Il ne faut pas imaginer qu'on, par un bon travail intellectuel, on va arriver à des conclusions qu'on va pouvoir soumettre quelque part et convaincre des instances de l'État ou des instances internationales qu'une partie de la dette est illégitime et que du coup, il faut renoncer à la prélever. Non. Notre travail n'a du sens que si nous arrivons à mobiliser une partie de la population pour mettre sous pression le pouvoir et amener à une attitude, à un changement radical dans l'attitude concernant la dette. Ça impliquera sûrement un changement de gouvernement pour mettre en place un gouvernement qui réellement répondrait à la demande de non-paiement de la dette illégitime. Donc c'est pour nous dire qu'on a entamé un boulot qui n'est pas une petite chose, mais qui vaut la peine d'être mené, parce que la question de la dette, elle commence, et nous en sommes conscients, mais nous ne sommes pas extrêmement nombreux encore aujourd'hui à en être convaincus, elle commence à avoir un effet de plus en plus pernicieux. Ça existe déjà depuis des années, mais elle va, dans ce contexte de crise économique, est l'argument qui va nous être avancé de manière répétée pour justifier les nouvelles attaques auxquelles le mouvement syndical, le mouvement social, la population de ce pays va être confrontée au cours des années qui viennent. Et donc, on est parti dans un travail de moyen terme, même de longue haleine, et je pense qu'on doit pouvoir gagner. Si ce qui a été gagné en Équateur, c'est parce que des gens ont commencé une bataille pour l'audit en 2000. Ils ont obtenu des résultats en 2007. Pendant 7 ans, il y a eu une bataille. Moi, j'étais en contact avec les comités qui se battaient sur cette question-là. Et si j'ai été désigné dans cette commission d'audit, c'est parce que j'étais connu aussi pour m'être battu là-dessus depuis des années avec les mouvements citoyens équatoriens qui mettaient en avant cette question. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis sûr qu'on va avoir un débat intéressant maintenant tout de suite.